La Rose des Vents est la scène nationale de Vilnadès. Il y a plusieurs scènes nationales en région. La Rose des Vents a des spécialités, on va dire, des particularités, aussi du fait qu'elle a associé une salle de cinéma intégrée. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Je pense qu'il y a d'autres lieux aussi qui en ont, comme l'Hippodrome, notamment. Voilà, donc on va parler à la fois de la programmation de la scène de La Rose des Vents, quoique cette année, ça va être un petit peu différent des années habituelles, et puis aussi de la programmation et de l'organisation, on va dire, du cinéma Le Méliès. Donc, j'ai invité deux personnes qui vont peut-être se présenter. Donc, à ma droite,
Audrey Hardier, je suis donc la secrétaire générale de La Rose des Vents.
Voilà, et à ma gauche,
Antoine Tillard, qui est le programmateur du Méliès.
Voilà, donc j'ai tenu à vous inviter tous les deux, parce que cette année, peut-être plus que d'habitude, vous avez une raison d'être ensemble.
Oui, on a plusieurs raisons d'être ensemble. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'avec Antoine, on essaie de programmer des événements alliant spectacle vivant et cinéma. Donc, on va retrouver un peu pendant tout au long de la saison. Mais effectivement, là, ce qui s'ajoute en plus de cette programmation conjointe, c'est le point d'ancrage qui sera encore plus fort que d'habitude au Méliès, vu que effectivement, nous allons démarrer une période de travaux à La Rose des Vents et que du coup le point d'ancrage pour notamment la billetterie spectacle vivant se fera au cinéma Le Méliès. Donc Le Méliès devient également la permanence spectacle vivant en plus d'un lieu ouvert 7 jours sur 7 pour l'activité évidemment en cinéma.
Voilà, donc Audrey, on va présenter un petit peu cette année tous vos partenariats, parce que vous avez de nouveaux partenaires, votre, j'allais dire, audience, champ d'action s'est élargi géographiquement.
Oui, effectivement, nous avons la chance d'être accueillis dans de nombreux lieux de la métropole lilloise pour donc la programmation de la saison prochaine. Il y a donc une quinzaine de lieux qui va nous accueillir. Je ne sais pas si je les liste rapidement. En tout cas, il y a effectivement des lieux à Roubaix, à Tourcoing, à Mouveaux, à Lille. Donc que ce soit l'Oiseau-Mouche, le Colisée, le Théâtre municipal de Tourcoing, le Théâtre du Nord, le Grand Sud, le Grand Bleu, l'Opéra, le Prato, la Maison Folie-Oisem, l'Étoile à Mouveaux, le Zeppelin à Saint-André, ou encore la SAIND à Mont-Saint-Barœul. Donc effectivement, on va être métropolitain tout en gardant un point d'ancrage à Villeneuve-d'Ascq avec de nombreuses représentations, des longues séries de représentations à la ferme d'en haut qui nous accueille bien gentiment pour plusieurs spectacles cette saison.
Donc la programmation, j'allais dire traditionnelle de La Rose des Vents, est-ce qu'elle a dû s'adapter alors à de nouveaux espaces, hein, peut-être des contraintes de jauge ou des particularismes locaux?
On a effectivement dû s'adapter. Finalement, ça a été pas si compliqué que ça, étonnamment. Effectivement, quand on a construit la programmation donc avec Marie Didier, la directrice de La Rose des Vents, on a rapidement pris contact avec différents lieux qui étaient ravis de pouvoir collaborer avec nous. Et puis, dans les spectacles que l'on avait dans notre petite liste de spectacles que l'on voulait accueillir, finalement, c'était assez agréable de pouvoir se dire « Ah bah tiens, tel spectacle, je le verrai bien à tel endroit. » Finalement, d'adapter aussi les spectacles que l'on avait vus et qu'on avait envie de programmer à différents lieux qui pouvaient techniquement les accueillir. Après, c'est sûr qu'en termes de jauge, on doit aussi s'adapter puisque parfois on partage la salle avec le lieu qui nous accueille, qu'effectivement on n'est plus sur une salle de plus de 400 places qu'on avait l'habitude d'avoir à La Rose des Vents avec ce plateau qui est magnifique. Mais on sait que c'est pour un mieux, encore une fois, hein, après les travaux, on va avoir un théâtre qui est magnifique. Donc des adaptations, mais finalement des joyeuses collaborations qui s'annoncent.
Une irrigation du territoire, on va dire ça, qui peut peut-être fidéliser de nouveaux spectateurs.
Oui, l'objectif, c'est effectivement de peut-être toucher des personnes qui ne connaissent pas encore La Rose des Vents, scène nationale, Lille Métropole, Villeneuve-d'Ascq. Donc, du coup, après, de les inciter à venir à Villeneuve-d'Ascq une fois que les travaux seront finalisés. Et puis, aussi, notre souci, enfin, en tout cas, ce dont on va vraiment être vigilant, c'est de faciliter les transports pour nos spectateurs. Donc, on a effectivement mis en place aussi des navettes pour certains spectacles au départ du Méliès, pour que les Villeneuvois puissent assez facilement se rendre à d'autres lieux de représentation. Et puis, objectivement, effectivement, tous les lieux qui nous accueillent sont facilement desservis en transport en commun, donc je ne suis pas très inquiète là-dessus. Et pour terminer, on a également mis en place un système de covoiturage sur notre site internet pour que les spectateurs entre eux puissent s'organiser s'ils souhaitent covoiturer sur la métropole. Donc voilà, différents moyens de s'organiser.
Voilà, donc après et même pendant les années Covid qui ont démarré l'année dernière, on a trois saisons impactées par, pas le Covid forcément, mais par le déménagement.
Oui, tout à fait. En fait, avec le Covid, effectivement, on n'a pas pu tester pour le moment le nomadisme, vu qu'on devait normalement le démarrer dès janvier 2021. Donc, on va le tester vraiment sur cette saison 21-22. Donc, ça sera effectivement à Paris et on espère que les spectateurs vont nous suivre pendant effectivement ces trois ans de nomadisme qui s'annonce.
Alors, on peut peut-être parler de la programmation, peut-être aussi dire dans quel lieu on pourra voir. Alors, je ne sais pas, hein, je ne vais pas choisir dans l'immense programme. Peut-être je vais vous laisser faire.
Il y a un lieu qui nous accueille sur plusieurs périodes. Et c'est la Condition publique à Roubaix, qui a une salle de spectacle qui est vraiment idéale pour les formes que l'on a l'habitude d'accueillir. Et notamment dans ce lieu, on accueille deux grands noms de la scène internationale qui sont Milo Rau et Alain Platel, hein, tous les deux accueillis pendant le Next Festival, puisque effectivement la saison de la Rose des Vents se jalonne également avec deux festivals pendant l'année, le Next Festival en novembre et le Festival Dire en janvier. Donc pour dire un mot sur Milo Rau, le spectacle va s'appeler Grief and Beauty. C'est une toute nouvelle création de ce très grand metteur en scène suisse Milo Rau. Qui va parler de la douleur et la beauté et qui parle finalement de personnes. Il s'est entouré en fait de comédiens et de non-comédiens de tous âges qui ont touché de près ou de loin la mort, que ce soit de manière fictive, c'est-à-dire que ça peut être des comédiens qui ont joué plusieurs fois une scène où ils meurent, ou des personnes qui ont vécu au plus près cette situation-là. Mais on connaît Milo Rau et on sait que ça sera d'une grande délicatesse la manière dont il va traiter ce sujet. Et le deuxième grand artiste qu'on accueille à la Condition publique pendant le Next Festival, c'est Alain Platel, un artiste qui a de grande fidélité à la Rose des Vents. Et c'est d'ailleurs un spectacle qui s'appelle Gardenia, 10 ans après. Et c'est effectivement un spectacle qui a été créé il y a 10 ans, qui avait déjà été accueilli à la Rose des Vents il y a 10 ans, et qui réunit en fait sur scène des personnes qui terminent leur carrière, qui viennent de cabaret. C'est des gens qui sont travestis ou transsexuels. Et ça parle du coup de la vieillesse et puis de ces corps qui changent. C'est très drôle, c'est très paillettes, cabaret, et en même temps des témoignages de vie exceptionnelle. Donc ça, c'est vraiment un des grands événements de la saison. Et pour ces deux spectacles, en fait, je ne sais pas si on en parle maintenant, mais pour ces deux spectacles, on a justement ce qu'on appelle l'œil du Méliès, et pour lesquels, du coup, on a choisi de faire une programmation de films en lien avec ces deux spectacles.
Voilà, donc Antoine Tillard, on l'a bien compris, il y a un travail en commun dans la programmation entre la scène, on va dire, de spectacle vivant et la programmation cinématographique, cette année plus que d'habitude.
En fait, c'est aussi, je pense pas que ce soit, enfin, cette année peut-être parce que ça s'augmente, mais c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps. Et c'est vrai que là, Marie et Audrey, quand elles ont fini la programmation, on s'est rencontrés, on a discuté des spectacles qu'elles présentaient. Et moi, je me suis dit, tiens, sur ce spectacle-là, il y a peut-être quelque chose à faire. Et effectivement, sur ces deux spectacles-là, il y avait de toute façon des liens assez évidents. Bon, 1 000 euros, c'était assez facile puisque 1 000 euros est un artiste multitâche et que du coup il est aussi réalisateur de films, donc il sort un film qui s'appelle The New Godspell sur une question très simple, hein. Il s'est demandé que ferait Jésus au XXIe siècle, notamment sur la question des migrations, et il choisit vraiment d'approfondir ce sujet en s'intéressant à l'exploitation des migrants dans les zones où on cultive, on fait du maraîchage en Italie, et il choisit de symboliser son Jésus justement par un des militants qui s'appelle Yvan Sagnier, qui va être le porte-parole de ce mouvement qui est né en Italie et qui va obtenir aussi des choses. Il a obtenu quand même des meilleures conditions de travail pour ces migrants qui sont exploités en fait par une mafia. Et il obtient comme ça un label de qualité aussi sur la culture. Ce qui fait qu'on a un film vraiment très fort, Miloro. Et de toute façon, toujours, dans le travail de Miloro, on a quand même une très forte propension à la spiritualité. Hein, donc évidemment, sur le cinéma, il fait la même chose. Et sur Gardenia, sur Platel, c'était pour moi évident de reprendre le film de... C'était le troisième film à l'époque de João Pedro Rodrigues, réalisateur portugais, qui s'était fait connaître à l'époque avec O Fantasma. Là, c'est un film qui s'appelle Mourir comme un homme, qui est l'histoire d'une personne transgenre, mais qui n'a pas abouti sa transformation, qui ne le souhaite pas, qui est aussi empreinte, elle, de culpabilité parce qu'elle est très croyante. Et c'est tout son cheminement aussi par rapport à ça, comment elle doit... Elle apprend, évidemment, dans le cheminement du film, des choses qui doivent la remettre en question, et comment elle chemine ce vieillissement, parce que c'est aussi le sujet d'une star de cabaret de travesti de Lisbonne qui vieillit et qui se fait remplacer par des plus jeunes, et c'est comment elle vit la transformation de son corps, la transformation de ce qu'elle est. Et c'est aussi un film très spirituel et très... João Pedro Rodrigues est un réalisateur que moi je trouve absolument admirable en termes de réflexion, de travail, de mise en scène. C'est un type inventif, et du coup ça me paraissait évident que par rapport au travail de Platel, il me paraissait évident que les deux pouvaient très bien se répondre. Donc c'est aussi, c'était peut-être les deux choix les plus faciles et les plus évidents sur la programmation qu'on a faite cette année, cette saison.
Alors justement, le Méliès, c'est un cinéma d'art et essai. On vient de comprendre au travers de cette type de programmation, que c'est une programmation qui est ambitieuse, qui est, intelligente pour ma part, je la trouve, après chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas qui doit interroger aussi le public.
L'idée, c'est aussi moi j'aime beaucoup, c'est aussi un cinéma à recherche, hein, puisqu'on est, labellisé, on a tous les labels de la RSC, on est Europa Cinéma en plus, et on est mono-écran, donc c'est vrai qu'on est une salle, en termes de cinéma, on va dire assez exigeante, mais moi j'aime à dire que le cinéma populaire, il se trouve au Méliès, justement, parce que c'est un cinéma qui est fait par le peuple, c'est-à-dire que c'est pas un cinéma fait par des industries, des gros studios américains, effectivement, et que c'est dans ce cinéma-là, ce cinéma d'auteur, qu'on découvre des films absolument fantastiques. Là, en plus, je reviens de Cannes, qui est le temple du cinéma RSC, où j'ai pu voir plein de films. Alors après, cette année, je peux vous dire que ça a fait énormément de bien de voir plein de films, mm-hmm. de rentrer dans les salles. Et c'est vrai que là, le pour moi, en tout cas, on est un cinéma populaire au sens littéral du terme, et que du coup, le partage, le chemin qu'on fait aussi avec le public, puisque l'idée, moi, en tant que programmateur du Méliès, c'est aussi d'emmener le public vers un cinéma qu'il n'aurait pas forcément été voir a priori au début quand il fréquentait la salle. Et notre bonheur, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui suivent la programmation et qui, au fur et à mesure du temps, affinent leurs envies et leurs plaisirs de cinéma et sont prêts à découvrir des choses qui peuvent parfois paraître difficiles, mais qui en fait le sont beaucoup moins qu'on ne le croit.
Alors, on aura, j'espère, un jour l'occasion de faire une émission spéciale avec d'autres salles qui sont dans ce travail aussi de présentation de films qui prennent le public, qui est en exigence d'une certaine réflexion, peut-être aussi de se sentir par rapport à ces films dans une société ou qui voudrait être dans une autre, une réflexion aussi par rapport à tout ça. Donc on sent bien les enjeux de tout ça. Donc ce cinéma qui s'appelle Le Méliès, il est depuis tout le temps au Triolo, hein, donc avec accès métro, c'est assez facile. Et il est dans un environnement. Comment se passe le rapport entre l'environnement proche du Triolo et l'ensemble des personnes qui viennent voir les films a priori, je pense que c'est une des salles, sinon la salle, dans son domaine, qui est la plus visitée de la région.
Ah, de la région, pour un mono-écran, oui.
C'est ça.
On a une très forte fréquentation, puisqu'on a une jauge à 167 places. Et que, alors, hors des années Covid, évidemment, mais en 2019, on a terminé la saison à 58 000 entrées. Et effectivement, on n'est pas peu fiers, puisque même au niveau national, ça nous met, en termes de fréquentation, dans un niveau assez élevé, nationalement, de fréquentation, effectivement.
Donc les gens viennent de partout.
Mais ça vient même de Belgique. On a des fidèles de Belgique qui font des journées complètes, qui viennent exprès pour voir plusieurs films. Voilà, c'est vrai que c'est notre fierté. On a vraiment une fréquentation assez large, avec une majorité de Villeneuve-Voix, bien évidemment.
Donc là, on a parlé avec Audrey Audriette de ce grand temps fort qui a lieu tous les ans, on va dire à l'automne, hein, le festival Next. Est-ce que par rapport au Next, il y a aussi une complicité entre les salles de ce réseau, pour résumer, et la partie programmation, film ?
On tente de la faire. Cette année, on a... alors, je ne sais plus dans Next. Le 1000 euros, il est dans Next, si je ne m'abuse.
1000 euros et Platel sont dans Next. Mais après, effectivement, l'idée de faire une programmation théâtre et cinéma, on l'a proposé à nos collègues de Bouddha à Courtrai, voilà, qui ont également un cinéma. Puisqu'effectivement, pour rappel, le Next Festival, c'est une programmation commune entre 5 lieux de France et de Belgique. Et on a l'Espace Pasolini et le Phénix à Valenciennes. Le théâtre Bouddha et le théâtre de la ville de Courtrai et la Rose des Vents. Donc on est 5 co-organisateurs de ce gros festival et qui effectivement est basé sur la création internationale de performances de théâtre et de danse. Et effectivement, voilà, on a eu envie aussi de proposer du cinéma et c'est vrai que ça a fait écho à la salle à nos collègues de Bouddha qui souhaitent aussi du coup faire une proposition de quelques films. Donc effectivement, dans la brochure du festival qui sera disponible dès la fin septembre, il y aura une page dédiée à une programmation cinématographique en lien avec les spectacles du festival.
Donc, tous les deux, vous avez accès, peut-être avant les autres, vous pouvez anticiper puisque vous choisissez des programmes, des programmations. Est-ce que vous ressentez la ressource par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, même si vous êtes jeune, aussi riche qu'auparavant? Est-ce que vous sentez que la créativité, la création, c'est quelque chose qui est encore dans l'air du temps et bien sûr dont on profite grâce à vous?
Vas-y si tu veux, Audrey.
Oui, les propositions sont riches. Comment dire ? Je pense qu'effectivement, depuis que je fais ce métier, ça fait 20 ans. Hein, on n'est pas si jeune que ça avec Antoine, hein, même si on est bien conservé. Mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On va dire qu'effectivement, il y a 20 ans, il y avait peut-être moins de collaboration et de réseau. C'est-à-dire que quand on découvrait un artiste ou un spectacle inédit, on avait justement envie de que ça reste inédit et il n'y avait pas forcément de partage avec d'autres scènes et d'autres lieux. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a évolué. L'idée d'avoir absolument la création, la première française, la première européenne, ça évolue un peu et je trouve que c'est une bonne chose puisqu'en fait, l'objectif, c'est maintenant de collaborer et de se mettre ensemble pour faire en sorte que les artistes puissent avoir une belle tournée. Et à l'inverse, du coup, quand on voit un beau spectacle et quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire, un artiste qui vient du Japon, par exemple, on en a également un qu'on accueille pendant le Next Festival, on ne pourrait pas l'accueillir tout seul, donc on a tout intérêt à travailler ensemble et à collaborer. Donc je dirais qu'en tout cas, pour ce qui est du spectacle vivant, j'ai senti un changement dans ce sens-là, d'essayer de travailler mieux ensemble entre les scènes françaises et européennes, pour soutenir mieux la création et les artistes.
Est-ce qu'Avignon reste un lieu incontournable pour faire des découvertes ?
Dans le IN, je pense, enfin, pour ma part, et je pense que je suis pas la seule à le penser, on ne fait plus vraiment de découvertes. Ce sont souvent des noms déjà connus. Donc ça peut être des créations, mais d'artistes qu'on connaît déjà. Mais pour autant, ça reste un lieu intéressant. Et ce qui a changé aussi, c'est les spectacles proposés dans le off, qui sont de plus grande qualité, c'est pas ça, mais en tout cas, il y a des scènes contemporaines aujourd'hui dans le off, des lieux qui accueillent des spectacles qui, là, pour le coup, sont la nouvelle génération. Donc, il y a des spectacles intéressants à découvrir dans le off, je pense.
Alors, chaque année, en Avignon, il y a des compagnies de la région qui sont aidées un peu par la région Hauts-de-France, hein, notamment. Là. Est-ce que ce sont des gens qui vous intéressent aussi ?
Oui, on accueille notamment la saison prochaine une artiste qui s'appelle Noémie Ksikova avec le spectacle Los, qui remporte un grand succès. Donc on est ravis pour elle, puisqu'effectivement elle est pour l'instant pas encore forcément repérée au niveau national. Elle est fortement soutenue par le Phénix à Valenciennes et nous on l'accueille du coup avec l'Oiseau Mouche à Roubaix pour 3 représentations. Donc ça c'est une artiste qu'on est heureux de soutenir. Après il y a des artistes plus connus comme Tiffaine Raffier qu'on accueille, qui est artiste associée chez nous, et puis d'autres artistes qui n'étaient pas à Avignon cette année mais qui sont souvent à la manufacture à Avignon, c'est le théâtre du Prisme que vous connaissez sans doute. Merci. Avec donc Arnaud Ancard. Mmh. Et voilà, qui fait des spectacles toujours vraiment très intéressants et qu'on accueille justement la saison prochaine, enfin la saison 21-22, avec le spectacle « Toutes les choses géniales » à la ferme d'en haut.
Très bien. On parlait de Tiffaine Raffier. Elle est quand même au départ un petit peu... elle est passée dans la région, on peut dire ça.
Elle est issue de l'École du Nord. C'est une ancienne élève de l'École du Nord. Sa compagnie est implantée dans la région Hauts-de-France. Et elle a été artiste associée au Théâtre du Nord. Et elle est également artiste associée à La Rose des Vents. Et d'ailleurs, effectivement, on accueille 2 spectacles de Tiffaine la saison 21-22. Le premier s'appelle La Chanson, qui est une recréation, qui était son premier spectacle qu'elle avait effectivement créé au sortir de l'École du Nord. C'était vraiment son tout premier spectacle au moment du festival Prémisse à l'époque. On propose aussi à nos spectateurs de découvrir sa toute dernière création qui s'appelle La Réponse des Hommes. Et ça, c'est une collaboration avec le Théâtre du Nord. En fait, c'est le Théâtre du Nord qui fait le choix et pour notre plus grand bonheur d'accueillir Tiffaine avec ce spectacle.
Donc, nouveau directeur, il faut le dire aussi, au Théâtre du Nord. Donc, de nouveaux partenariats possibles ?
Oui. Assez facilement, on se connaît bien avec David Bobet. Donc, les choses se sont faites assez facilement. Dès son arrivée, on a eu quelques rendez-vous avec Marie et puis avec ses nouveaux collaborateurs. On a échangé ensemble sur nos programmations respectives. Et il y avait déjà des choses qui s'étaient... décidé avec la précédente direction, Christophe Roque et Nathalie Pousset, à savoir le fait d'accueillir ensemble le spectacle de Joël Pommerat, Contes et légendes, qui sera accueilli au Théâtre du Nord à l'automne avec une dizaine de représentations, qu'on accueille en co-réalisation avec La Rose des Vents. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait imaginé avec la précédente création, ainsi que le spectacle qui sera accueilli au Next Festival qui s'appelle Dark Noon, qui est en fait un report à cause du Covid. Et avec la nouvelle direction qui vient d'arriver, en fait, très vite, on s'est mis d'accord sur deux choses assez simples, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de présenter La Réponse des Hommes de Tiffaine Raffier, qui est artiste associée chez nous. Donc évidemment, on avait envie que nos spectateurs puissent le prendre dans leur abonnement. Donc on s'est mis d'accord sur des places disponibles pour nos abonnés. Et à l'inverse, La Rose des Vents programme un chorégraphe qui s'appelle De la Vallée Bidiefono, qui est un artiste qu'on adore à La Rose des Vents et qui est quelqu'un qui est un artiste aussi proche de David Bobet. Donc pour David, c'était une évidence de pouvoir proposer aux spectateurs du Théâtre du Nord de découvrir le spectacle de La Vallée Bidiefono. Donc c'est des échanges de bons procédés qui se font vraiment assez facilement et je pense qu'il n'y aura effectivement aucun souci pour la suite et les prochaines saisons. On aura plaisir et à programmer des spectacles ensemble et à échanger entre La Rose des Vents et le Théâtre du Nord.
Alors, on a parlé des collaborations, de co-accueil. Est-ce qu'on pourrait parler de coproduction également avec des partenaires hein, de la région? Pourquoi pas?
Les coproductions, c'est encore autre chose. Les coproductions, en fait, c'est des spectacles sur lesquels, effectivement, La Rose des Vents fait le choix de coproduire, c'est-à-dire d'accompagner financièrement le spectacle avant sa création. Les collaborations avec les autres lieux, c'est ce qu'on appelle effectivement plutôt des co-réalisations. Donc c'est ce qu'on fait effectivement avec le Théâtre du Nord. C'est ce qu'on va faire également. Je vais en oublier, donc ça. c'est ce qu'on va faire également avec la salle Allende à Mons-en-Barœul, avec deux spectacles qu'on a choisis ensemble. Le premier, c'est le spectacle Stallone avec une magnifique comédienne qui s'appelle Clotilde M. Et c'est un spectacle qu'on a eu envie d'accueillir ensemble avec cette salle qui s'appelle donc la salle Allende à Mons-en-Barœul. Stallone, ça raconte l'histoire en fait d'une femme qui, au sortir du film Rocky III, a un déclic et décide de changer de vie et s'identifie au héros décide de reprendre ses études, de reprendre sa vie en main. C'est un spectacle vraiment bouleversant, cette comédienne. Enfin, je regarde Antoine parce que je sais qu'il l'aime également beaucoup. Mmh. C'est une grande comédienne de cinéma également. Donc, on accueille ce spectacle à Mons-en-Barœul. Et on accueille un autre spectacle à Mons-en-Barœul d'un mentaliste qui s'appelle Kurt Demey, qu'on avait déjà accueilli à La Rose des Vents il y a 2 ou 3 saisons. Et là, ce sera sa nouvelle création. Et on a eu envie d'accueillir ce spectacle de magie mentale ensemble. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais effectivement, de collaborations, co-réalisations avec tous ces lieux.
Donc chaque année, La Rose des Vents a des artistes en résidence. Est-ce que cette année, il y en a également? Et où vont-ils pouvoir travailler?
On ne peut effectivement plus accueillir comme on le faisait habituellement les artistes en résidence, mais on a quand même un spectacle qu'on a soutenu et qui sera en résidence à la ferme d'en haut. Donc avec la ferme d'en haut, c'était un souhait aussi commun d'une compagnie de la région qui s'appelle Des fourmis dans la lanterne et qui donc vont s'installer à la ferme d'en haut pendant une quinzaine de jours, les 15 derniers jours de création, et puis présenter ensuite une série de représentations à la ferme d'en haut. Donc ça, c'est aussi une collaboration fructueuse entre La Rose des Vents et la ferme d'en haut, et la possibilité effectivement d'accompagner quand même cette compagnie en résidence de création.
Donc on a une idée un peu précise maintenant de cette nouvelle saison, hein, 2021-2022 de La Rose des Vents. Pour ce qui est du Méliès, comment ça se passe pendant les vacances?
Ah ben là, exceptionnellement, du fait qu'on a été forcé d'être fermé pendant un certain temps, on peut le dire, du coup, on a décidé d'ouvrir un peu plus longtemps. C'est-à-dire que là, on ouvre jusqu'au 17 août, parce qu'on va quand même prendre un peu de vacances, parce qu'on en a besoin de changer d'air, quand même. Et du coup, là, on fonctionne à plein tube. Alors, évidemment, nous avons pris la décision, comme de nombreux cinémas, de limiter la jauge à 49 places pour ne pas avoir à réclamer le pass sanitaire, puisqu'on estime que ça n'est pas notre métier. Ça fait plusieurs fois que je le dis, donc je le répète. Voilà, ce n'est pas notre métier de contrôler les gens à l'entrée des salles de cinéma. Je pense que c'est important de le rappeler. Et du coup, c'est vrai qu'on va avoir... on a volontairement limité notre jauge. C'est sûr que sur certains films, ça pourra peut-être poser problème. Mais ça nous permet de rester intact dans nos convictions et de laisser l'accès au cinéma pour tous, sans avoir à décider qui peut rentrer ou qui ne peut pas rentrer.
Est-ce qu'il y a un système de réservation?
Non, on fait de la pré-vente par contre. C'est-à-dire qu'on a un site internet en fait qui est un peu vieillissant, qu'il faut qu'on remette à jour, hein, puisqu'il date de 2011. Donc là, maintenant, il commence vraiment à vieillir. Mais effectivement, c'est un projet qu'on a. Mais pour l'instant, on fait de la pré-vente. C'est-à-dire que n'importe qui peut passer au cinéma et acheter ses places s'il le veut pour le 17 août. Elles sont déjà en vente, il n'y a pas de souci.
D'accord. Donc on va rappeler l'adresse. Hein. C'est Centre Triolo.
Tout
donc,
à fait.
Hein, métro Triolo. Donc,
en face du métro. Trop trio.
Tout à fait. Est-ce qu'on peut téléphoner pour avoir des infos?
Bien sûr. 03 20 43 80 74.
Alors, pour la saison donc, de la Rose des Vents, la programmation spectacle, j'imagine que voilà, la billetterie commence à fonctionner.
Oui, on a fait nos présentations de saison au Méliès, trois soirées exceptionnelles à la fin juin. Et donc, on a lancé effectivement le nouveau site de la saison 21-22 et la billetterie en ligne dès le 24 juin. On a essayé de simplifier vraiment le plus possible les formules d'abonnement vraiment donner envie aux gens et faciliter les démarches pour la prise de place. Donc, les gens peuvent aller sur le site de La Rose des Vents et s'abonner en ligne. On avait effectivement jusqu'au 16 juillet le téléphone de la billetterie qui était les personnes étaient joignables et une permanence billetterie, comme je le disais, hein, le lundi et le jeudi après-midi. Là, l'équipe est en vacances, mais dès la fin août, dès le 26 août, si je ne dis pas de bêtises, le jeudi 26 août, la billetterie sera de nouveau opérationnelle, billetterie physique, hein, j'entends, au Méliès, donc les lundis et jeudi après-midi.
Alors, le catalogue, enfin, on va dire la plaquette de la saison, hein, est disponible, j'imagine, un peu partout maintenant.
Oui, elle est diffusée vraiment dans tous les lieux de la métropole, les lieux de vie, on va dire, théâtre, bar, restaurant,
les musées aussi,
et les musées. Oui. Et normalement, elle a été aussi, elle a été distribuée. Envoyée à nos abonnés et après, effectivement, elle est disponible un peu partout.
Voilà. Donc, on va vous souhaiter de bonnes vacances, hein, même s'il y en a encore qui travaillent un peu. Dernière ligne droite.
Exactement.
Eh ben, merci beaucoup, Audrey Hardriette, et merci, Antoine Tillard. Plaisir de vous retrouver au hasard de nos rencontres, justement, toujours passionnantes sur l'art vivant et aussi l'art du film, qui est quand même le bel art aussi. Hein.
Tout à fait.
Merci pour tout.
Merci
à vous.